Eroua Afrique, Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 8 juillet 2016, en direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
4 policiers ont été tués à Dallas pendant un rassemblement pour protester contre la mort de 2 hommes noirs tués par la police dans 2 villes des États-Unis.
Parmi les autres titres, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur le blocage politique en RDC.
En Angola, José Eduardo dos Santos est l'unique candidat à la présidence du MPLA et probablement aussi à la présidentielle.
Nouvelle attaque sanglante du groupe État islamique en Irak, non loin de Bagdad, la capitale. Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Des tireurs isolés ont semé la panique à Dallas, au Texas, tuant jeudi 4 policiers pendant un rassemblement dans cette ville du sud des États-Unis pour dénoncer la mort cette semaine de 2 hommes noirs sous les balles des forces de l'ordre. Au moins 2 suspects ont été placés en garde à vue, a indiqué la police de Dallas, ajoutant que des démineurs étaient en train d'intervenir après la découverte d'un paquet piégé.
Une autre fusillade a éclaté tôt vendredi entre la police et un autre suspect. Ce dernier a affirmé qu'il avait posé des bombes partout, a indiqué le chef de la police de Dallas, David Brown. Outre les 4 policiers tués, 7 agents et un civil ont été blessés, selon les autorités. Le rassemblement à Dallas faisait partie donc de plusieurs manifestations organisées à travers les États-Unis pour protester contre la mort de 2 hommes noirs abattus par la police cette semaine, l'un en Louisiane, l'autre dans le Minnesota.
Auparavant, le président Barack Obama avait hier qualifié l'attitude policière d'un grave problème dans la société américaine. Éric Manirakiza.
Le chef de la Maison-Blanche a dénoncé les 2 assassinats dans un communiqué. Ces meurtres, filmés respectivement à Minnesota et en Louisiane, ont provoqué de vives émotions et généré une indignation nationale. Barack Obama a décrit une situation symptomatique de défis plus larges au sein du système judiciaire des États-Unis. Il a aussi écarté tout incident isolé, parlant de disparités raciales, de manque de confiance entre la police et de trop nombreuses communautés. Tout en reconnaissant le mérite de l'immense majorité des policiers qui jouent quotidiennement leur rôle de protéger la population, M. Obama a cependant souligné que la mort des 2 Noirs symbolise un grave problème dans la société américaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Les Nations Unies avertissent que sans un sérieux dialogue politique national, les tensions politiques actuelles en République démocratique du Congo pourraient dégénérer en une crise sévère, voire violente. Précision de Jean-Roger Bion.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Yann Eliasson, a souligné que les tensions politiques augmentaient en prélude aux élections présidentielles et législatives envisagées par la Constitution. La polarisation politique et le mécontentement public sont alimentés par les retards dans le processus électoral, le débat autour du respect de la Constitution et les restrictions croissantes concernant l'espace démocratique, a expliqué M. Eliasson lors d'un briefing hier devant le Conseil de sécurité. Il y a de grandes craintes au Congo selon lesquelles le président Joseph Kabila, qui doit quitter le pouvoir à la fin de l'année, pourrait retarder les élections afin de se cramponner au pouvoir. La Cour constitutionnelle de la RDC a au demeurant décidé en mai que le président et les membres du Parlement pouvaient rester à leur poste jusqu'à l'installation de nouveaux élus. M. Kabila a proposé la tenue d'un dialogue national, mais pas d'accord jusqu'ici sur ce thème et qui va y participer. L'opposition a exprimé de la réticence à ce sujet. Le représentant permanent du Congo, Ignace Gata Mavita, a démenti que l'espace politique se rétrécisse dans son pays et souligné que son gouvernement veut organiser des élections libres conformément à tous les critères internationaux dans un climat apaisé.
Le président angolais, José Eduardo dos Santos, est l'unique candidat à la présidence du MPLA. C'est ce qu'a décidé le comité central du parti au pouvoir que citent les médias d'État angolais. Des détails avec Michel Joseph.
Cette annonce met fin aux spéculations selon lesquelles le chef de l'État angolais pourrait laisser cette place à quelqu'un d'autre. Au pouvoir depuis 1979, le président dos Santos avait fait part en mars dernier de son intention de quitter le pouvoir en 2018 sans fournir de raison. Il n'avait rien dit non plus concernant son éventuel successeur. Le congrès du MPLA, qui élira le chef du parti, se tiendra au mois d'août, suivi en fin 2017 d'élections générales. Le leader du parti, vainqueur de ces élections, deviendra le président de la République. Principal producteur africain de pétrole, l'Angola a été sérieusement affecté par la chute mondiale des cours de l'or noir, ce qui s'est traduit par une pression accrue sur le kwanza, sa monnaie nationale, avec une inflation galopante. Après avoir sollicité l'aide du Fonds monétaire international, les autorités angolaises ont indiqué la semaine dernière qu'elles mettaient fin au pourparlers avec le fonds. Certains analystes craignent maintenant une récession ainsi qu'une crise de la dette en Angola.
Au Mali, réaménagement technique du gouvernement. La taille du gouvernement passe de 32 à 34 membres. Les représentants des groupes armés font leur entrée dans la nouvelle équipe gouvernementale qui est toujours dirigée par le Premier ministre Modibo Keïta. Le point avec Kassim Traoré.
L'équipe gouvernementale était très attendue à Bamako. Finalement, la liste a été rendue publique par le ministre secrétaire général de la présidence. Le nombre de femmes passe de 6 à 8. Dans la nouvelle équipe, il y a 9 nouveaux ministres, 7 ont quitté. Parmi les ministres qui ont quitté, Zabi Sidi Mohamed a été remplacé par Mohamed El Mokhtar, un ancien ministre sous ATT, tout comme Tchamogo Sangaré qui hérite du ministère des Mines. Certains ministères ont été scindés, à l'image de la culture qui se détache de l'artisanat. Désormais dirigé par Nina Wallet Intalou, représentant de la CMA, ou encore la jeunesse et la construction citoyenne, un département qui sera dirigé par le nouveau ministre Amadou Koïta. Parmi les nouveaux entrants, on peut citer aussi Maître Mamadou Ismaël Konaté, qui dirigera désormais le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et Garde des Sceaux. Certains ténors se maintiennent dans l'équipe gouvernementale, comme Mohamed Ali Batili au ministère des Domaines de l'État, Amadou Konaté à la Solidarité et à l'Action Humanitaire, ou encore Tchema Hubert Koulibaly, qui reste à la défense. En tout, il y a 34 portefeuilles ministériels contre 32 pour l'équipe sortante. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Sommet de l'Union africaine dimanche à Kigali, au Rwanda. Le principal point à l'ordre du jour sera certainement le choix du prochain président de la commission de l'UA. Bagassi Koura.
Oui, parce que la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma est partante après avoir dirigé la commission pendant les 4 dernières années. À ce jour, il y a 3 candidats, 2 ministres des Affaires étrangères, Pelonomi Vinson Mwatidou du Botswana et Agapito Mba de Guinée équatoriale également dans la course, l'ancienne vice-présidente ougandaise et ancienne envoyée spéciale de l'ONU pour le VIH-Sida en Afrique, Speciosa Wandira Kazibwe. Mais Peter Pham, le directeur du Centre africain du Conseil de l'Atlantique, basé ici à Washington, pense que le successeur de Dlamini Zuma ne pourra être désigné lors de ce sommet en raison du vote à la majorité des 2/3 requis. Un nouveau vice-président et 8 commissaires de l'UA devront également être désignés.
Une attaque attribuée au groupe État islamique contre un mausolée chiite au nord de Bagdad a fait 30 morts et 50 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ce qu'a indiqué un responsable des forces de sécurité irakiennes. Cette attaque s'est produite 5 jours, rappelons-le, après un attentat au minibus piégé à Bagdad qui a fait près de 300 morts selon un nouveau bilan fourni jeudi.
Les 28 pays de l'OTAN se réunissent aujourd'hui à Varsovie pour renforcer le flanc oriental de l'Alliance, et ce face aux craintes suscitées par la Russie et pour réaffirmer aussi leur cohésion en dépit du Brexit.
Washington et Séoul ont annoncé aujourd'hui être parvenus à un accord pour déployer un bouclier antimissile américain en Corée du Sud face à la multiplication des menaces venues de Corée du Nord. Les deux pays avaient commencé à discuter du déploiement du système avancé THAAD en février, un mois après le 4e essai nucléaire nord-coréen.
Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro et Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La France en finale de son Euro.
Ah oui, vainqueur 2-0 contre l'Allemagne hier soir à Marseille grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. La France va disputer la finale de son Euro contre le Portugal. Ce sera dimanche au Stade de France. Une soirée riche en émotions au Stade Vélodrome, comme nous le raconte Jean-Roger Billon.
Une fois encore, la France peut remercier son homme providentiel, Antoine Griezmann. À l'issue d'une première période très compliquée, malgré une très bonne entame, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a libéré son équipe en transformant le pénalty concédé par Bastian Schweinsteiger, coupable d'une main dans sa surface. 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Griezmann tue le match et inscrit un doublé à la 72e minute de jeu. L'attaquant de l'Atlético de Madrid est le meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations. Score final 2-0 à Auvergne, les Allemands. L'exploit est retentissant puisque les Bleus n'avaient pas battu la Mannschaft en compétition officielle depuis 1958. Ils la privent ainsi d'un doublé Coupe du Monde Euro. La France affrontera donc le Portugal de Cristiano Ronaldo dimanche au Stade de France. Les Bleus tenteront de remporter un troisième championnat d'Europe après la victoire en 2000 contre l'Italie et celle de 1984.
Et cette qualification du pays organisateur a suscité la joie dans toute la France.
Et de Marseille à Paris, cette victoire des Bleus a été vécue avec une grande passion partout dans le pays. Notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou, nous raconte cette soirée.
C'est tout un pays qui était en liesse. Dans les bars, les différentes fanzones, notamment celle de Paris, où 90 000 personnes ont suivi la rencontre, les supporters français ont laissé exploser leur joie après chaque but, et encore plus à la fin du match. Les coups de klaxon et les chants victorieux sont légion, les drapeaux et maillots aux couleurs bleu, blanc, rouge s'affichent partout dans l'hexagone, en signe de fierté nationale. 18 ans après la Coupe du Monde 98, la France sera de nouveau au rendez-vous d'une finale dans une compétition organisée à domicile. Les plus anciens ont le sentiment de revivre cette période unique dans l'histoire du sport français. Les plus jeunes découvrent la joie parfois débordante que provoque un tel événement. Le meilleur est peut-être à venir. Dimanche, la France dispute la finale, sa finale face au Portugal. La bande à Griezmann, Pogba et Payet tentera d'imiter ses glorieux aînés. Il y a 18 ans, les Bleus de Zidane avaient envoyé tout un pays au paradis. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
La finale ce sera donc dimanche, France-Portugal.
Oui, 12 ans après, le Portugal est aussi en finale de 7 euros. Les Portugais qui avaient logiquement battu les Gallois, c'était mercredi à Lyon, 2-0. Et Cristiano Ronaldo, devenu le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, en compagnie d'un certain Michel Platini, avec 9 buts à son compteur. Le Pays de Galles de Gareth Bale est donc rentré à Cardiff avec tous les honneurs, malgré cette défaite. Retour sur le beau parcours des Gallois, c'est l'objet du coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. L'élimination du pays de Galles mercredi à Lyon a non seulement confirmé le Brexit britannique, mais aussi mis fin à la révolte des petits, un des grands enseignements de cet héros. En effet, la chevauchée fantastique du pays de Galles, la sensation islandaise, le retour de la Pologne et de la Hongrie, la qualification des 4 nations britanniques au second tour sont quelques indices du nivellement de valeur qui caractérise le football européen d'aujourd'hui. L'élimination progressive de ces révélations est justifiée par la pauvreté des bancs de touche, confrontés à la longueur de la compétition. Sur ce plan, les grandes formations ont des possibilités de rechange plus variées, là où, pour les petits, la moindre suspension ou blessure d'un joueur majeur prend la dimension d'une catastrophe. Dans ce cas d'espèce, il est incontestable que l'absence de l'animateur de jeu gallois, Aaron Ramsey, a considérablement diminué les capacités de nuisance de l'équipe britannique dans sa demi-finale contre le Portugal. Gareth Bale et Sélé n'a pu aligner que quelques mètres en début de rencontre et en vain. Les Portugais ont eu l'intelligence de rester prudents et patients dans l'attente du coup d'éclat de la 53e minute qui va leur offrir la qualification pour une affiche de finale plus conforme aux normes. Qu'à cela ne tienne, et quoi qu'il arrive, cet Euro 2016 aura été marqué par la révolte des petits et nul doute que ceci n'est qu'un début. À bientôt.
C'était le journal de l'Euro présenté par Nicolas Pinot.
Dans l'Amérique et vous, cette semaine, les États-Unis ont célébré le 4 juillet leur fête nationale, la 240e du genre. Retrouvez les Américains d'origine africaine qui nous parlent de leur expérience dans leur nouvelle patrie. Vos commentaires et réactions sont aussi attendus sur Facebook. Rejoignez-moi, John Lydon, ce vendredi à 19h, temps universel, en direct sur VOA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, Human Rights Watch dénonce la torture des opposants par les services de renseignement. L'ONG internationale parle aussi du comportement de miliciens tortionnaires proches du pouvoir et qui procèdent à des arrestations illégales. Eddie Isango a joint à Londres la chercheuse principale de Human Rights Watch, Karina Tersaken.
Ces pratiques de torture se sont intensifiées, sont devenues beaucoup plus systématiques depuis 2015 et beaucoup plus brutales aussi, avec des techniques de torture effroyables. Par exemple, des agents des services de renseignement ont frappé des détenus avec des marteaux, avec des barres en acier. Ils leur ont planté des barres aiguisées dans les jambes. Ils ont fracassé leurs os. Ils ont versé du plastique fondu sur leur peau. Ils ont même envoyé des décharges électriques sur certains détenus. Et ce sont des pratiques qui continuent en toute impunité puisqu'aucun de ces agents n'est jamais poursuivi en justice. Les jeunes du parti au pouvoir, ceux qu'on appelle les Imbonerakure, qui sont des membres de la Ligue officielle des jeunes du parti au pouvoir, travaillent étroitement avec les services de renseignement et avec la police pour intimider, torturer et commettre d'autres exactions envers des personnes soupçonnées d'être des opposants. Les Imbonerakure, eux aussi, se sont rendus responsables de graves exactions.
Est-ce que ces cas de torture sont constatés à Bujumbura ou sur toute l'étendue du pays ?
Dans plusieurs endroits, en fait. Donc, certains cas se sont déroulés à Bujumbura, dans la capitale, et au siège même du Service national des renseignements à Bujumbura. Mais d'autres cas que nous avons recensés proviennent d'autres provinces. Donc, il y a des cas que nous avons documentés dans 9 provinces différentes.
Et l'impact est donc grand d'après vous ?
Nous nous sommes entretenus avec plus de 40 victimes de torture depuis seulement avril 2016. Et nous avons également documenté d'autres cas avant cela. Les Nations Unies ont compté 651 cas de torture entre avril 2015 et avril 2016, mais nous pensons que le chiffre réel serait bien supérieur.
Les dialogues arrêtent plus au Burundi. Qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ces genres de torture ? Alors.
Le chef du service national de renseignement dépend directement du président. Donc le président, quelque part, a la responsabilité de tous ces actes de torture et d'autres exactions par ses services et devrait immédiatement prendre des actions pour mettre fin à cela.
Karina Tersakian, chercheuse principale de Human Rights Watch à Londres. Centrafrique, ce dimanche 9 juillet, marquera les 100 jours du nouveau président Faustin Archange Touadéra à la tête de la RCA. Décidé à réaliser la réconciliation nationale dans un pays ravagé par la violence intercommunautaire, il a réussi à ramener une certaine stabilité politique. Mais beaucoup de réfugiés centrafricains au Cameroun, qui en a accueilli quelque 300 000, hésite encore à rentrer chez eux. Reportage de Moki Edwin Kinzeka.
50 000 de plus de 300 000 réfugiés centrafricains sont à Garoua-Boulaye, à l'est du Cameroun. Manga Timothée Bell, un des responsables des camps de réfugiés, dit que les nombres n'ont pas changé depuis l'installation de Faustin Archange Touadéra comme président de la République centrafricaine.
Une partie de ces réfugiés, quelques-uns, rentrent déjà, mais la grande majorité, et demeure encore, vu toujours que l'insécurité y règne toujours. Parce que lorsque nous les questionnons, ils disent que même les camions sont toujours escortés, donc ils ne peuvent pas pour l'instant rentrer. Ils attendent que la situation se calme de plus en plus afin de rentrer chez eux. Ici, il faut noter que Garoua-Boulaye a plus de 50 000 réfugiés, ce qui fait que le risque d'insécurité est très élevé. Ces derniers vont dans des brousses, ils font des exactions des coupeurs de route.
Parmi les réfugiés qui refusent de rentrer, nous comptons Jodia Kato, collaborateur de l'ancien président Jotodia.
Nous qui avons combattu avec le président, nous sommes recherchés partout. Donc nous n'avons pas notre sécurité. Nous ne sommes pas sûrs qu'en rentrant là-bas, nous serons en paix. Nous serons libres comme tout le reste. Actuellement, tous ceux qui ont combattu avec le président sont recherchés à travers le monde entier. Donc on préfère rester où nous sommes.
Bon nombre de ces réfugiés, selon Ekodo Yannick, président des étudiants centrafricains résidant au Cameroun, préfère aller se débrouiller ailleurs.
HCR a trouvé des pays d'accueil. D'autres sont en train d'aller au Canada, d'autres vont aux États-Unis. Ils sont bien accueillis, on les trouve le travail et beaucoup vont même avec leurs parents. Mais rentrer en Centrafrique, avec tout le désordre qui se passe là-bas, pour eux, c'est pas la priorité. Beaucoup parmi eux ont perdu leurs membres de famille. C'est courant. Ils ne voudraient pas se retrouver dans les mêmes problèmes que leur famille restée au pays.
Entre-temps, les autorités camerounaises et les agences des Nations Unies s'occupent de ces réfugiés qui vivent dans des conditions précaires. Patience Eko est responsable de l'un des projets qui s'occupe des enfants vulnérables.
C'est un projet de protection qui est mis en œuvre en collaboration avec le HCR. Dans les différentes composantes, on a le suivi des enfants vulnérables, c'est-à-dire les enfants séparés, les enfants non accompagnés, les enfants handicapés. Bref, on suit tous les enfants. Également dans le site, nous avons le life skill, c'est-à-dire que renforcer les compétences des enfants issus de la guerre et qui ont perdu toute envie de se battre dans la vie, toute envie de mener des activités génératrices de revenus. Nous allons les amener à reprendre goût à la vie. Nous avons aussi l'enregistrement des actes de naissance. Nous accompagnons les enfants dans la documentation civile où les enfants nés dans le camp de Gado, on les amène à avoir les actes de naissance pour que ces enfants soient documentés.
Tous les regards sont focalisés sur le président Faustin Akanji Touadéra d'améliorer les conditions de vie et assurer leur sécurité avant que les réfugiés centrafricains ne rentrent chez eux. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Le premier ministre indien Narendra Modi poursuit sa tournée en Afrique australe, Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie et Kenya, tournée destinée à renforcer l'influence économique de New Delhi face à la Chine, déjà bien implantée sur le continent. Une série d'accords de coopération avec le Mozambique a été annoncée dans les domaines de la santé, l'agriculture, la défense et la sécurité. Écoutons l'analyse de l'économiste et avocat d'affaires Jemal Taleb, joint en France par John Linden.
La visite du Premier ministre indien en Afrique rentre dans le cadre des échanges traditionnels entre l'Inde et le continent africain. Il est clair que l'Inde, qui elle-même est un sous-continent, est très intéressée par le tournant de la croissance africaine. Et il est logique que l'Inde, qui organise un sommet avec l'Union africaine et donc l'ensemble des pays africains, soit intéressée à son tour par ce que représente le marché africain.
Comment expliquez-vous qu'il ait choisi le Premier ministre indien de ne visiter que les pays anglo-saxons?
La logique est simple, c'est que nous, autres francophones, on a toujours l'impression que notre Afrique est plus importante. Et là, ce n'est pas le cas. Il choisit les pays anglophones parce qu'ils sont les plus riches. L'empire colonial britannique est généralement beaucoup plus grand, beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, beaucoup plus important. Et donc l'Inde, elle-même, ancienne puissance dominée par l'Angleterre, il est logique qu'elle se sent politiquement, culturellement, plus proche de l'ensemble des pays anglo-saxons. Mais je pense, moi, qu'au-delà de l'affection, c'est d'abord des intérêts économiques dont il s'agit.
Quels sont les domaines où l'Inde peut apporter à l'Afrique?
L'Inde reste une grande puissance pauvre, en réalité. C'est-à-dire que c'est un pays très vaste, qui a des problématiques de développement assez similaires avec le continent africain. Cela dit, elle a un tissu industriel assez important, elle a une capacité financière moins importante que la Chine, mais qui existe quand même, et elle a des similitudes en matière de besoins de développement proches de beaucoup de pays du continent.
Alors, est-ce qu'on est dans une logique de gagnant-gagnant entre l'Inde et l'Afrique ou alors dans une logique d'exploitation comme ça a souvent été le cas avec d'autres puissances?
Le partenariat est sans doute gagnant-gagnant, lui, de ce point de vue-là. Le problème, c'est que la capacité, encore une fois, de suivi financièrement parlant de l'Inde est assez faible. Et donc, les possibilités pour Exim Bank India d'accompagner le développement commercial de l'Inde sur le continent africain restent tout de même assez limitées.
Il reste que cette visite du Premier ministre indien a été précédée par une actualité triste, à savoir la mort de deux étudiants africains congolais en Inde. Quel commentaire en faites-vous?
Ça nous rappelle d'abord que l'Inde n'est pas la puissance qu'elle veut bien nous imaginer. Deuxièmement, elle nous rappelle qu'il y a encore un problème réel dans la maîtrise de la situation sécuritaire et puis un rapport assez compliqué à l'homme noir. C'est-à-dire que l'Indien, quoi qu'on en pense, reste dans une espèce de fantasme du noir assez particulière. Et ces deux événements, mais qui ne sont malheureusement pas isolés, parce qu'ils viennent après d'autres événements, notamment d'autres Congolais encore l'année dernière et cette Congolaise morte l'année dernière dans des conditions absolument détestables. Donc, ça reste une problématique interne à la capacité de l'Indien lui-même d'endiguer les problèmes de sécurité et de régler donc la situation générale intérieure du pays, et puis en même temps le regard de l'Indien sur l'homme noir.
L'économiste et avocat d'affaires Jemal Taleb, joint en France par John Linden.
En direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Présidentielle américaine 2016, la journée de jeudi a été marquée par l'offensive de charme du candidat républicain présumé Donald Trump en direction des législateurs de son parti et côté démocrate par le témoignage au Congrès du directeur du FBI, James Comey, au sujet de l'utilisation par la candidate démocrate présumée, Hillary Clinton, d'un serveur privé non sécurisé pour ses communications du temps où elle était au département d'État. Timothée de Langmaille.
Commençons par Donald Trump qui a rencontré jeudi à huis clos les élus républicains à moins de 2 semaines de la convention de leur parti. C'était une importante opportunité pour nos membres d'obtenir des informations additionnelles au sujet de la campagne de M. Trump et de poser des questions sur les sujets d'importance pour les Américains, a expliqué le président de la Chambre, Paul Ryan, ajoutant « Il est clair que notre parti est engagé à défaire Hillary Clinton et les démocrates cet automne. » C'est avec un enthousiasme similaire que Donald Trump a écrit sur son compte Twitter « Ai eu de formidables rencontres avec les républicains de la Chambre et du Sénat. Journée très intéressante. Ce sont des gens qui aiment notre pays. » Cette unité apparemment retrouvée ne pouvait pas masquer l'absence de plusieurs législateurs républicains aux rencontres d'hier. Certains ont fait part de leur intention de ne pas se rendre à la convention du parti qui débutera le 18 juillet à Cleveland dans l'État de l'Ohio. Une bonne nouvelle pour Trump tout de même, l'un de ses grands adversaires aux primaires, le sénateur Ted Cruz, a promis d'y prononcer un discours.
Pour sa part, le directeur du FBI, James Comey, a témoigné au Congrès hier en défense de sa décision de ne pas suggérer des poursuites judiciaires contre la candidate démocrate présumée Hillary Clinton pour sa gestion d'informations classées top secret.
La controverse est née de l'utilisation par Mme Clinton, du temps où elle était secrétaire d'État, d'un serveur non sécurisé pour ses communications officielles. Hier, le chef de la police fédérale a expliqué aux législateurs qu'après 1 an d'investigation, ses enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve que Mme Clinton ou ses anciens collaborateurs au département d'État aient eu l'intention de violer les lois américaines sur les informations secrètes. James Comey a par contre fait état d'une grande négligence de leur part, des explications qui n'ont pas persuadé les élus républicains. Le député républicain Jason Chaffetz s'est dit mystifié et confus que le FBI établisse une grande négligence de la part de Mme Clinton dans l'utilisation d'informations ultra-secrètes, mais ne trouve aucune base pour suggérer des poursuites criminelles contre elle. Si votre nom n'est pas Clinton, ou si vous n'appartenez pas à la puissante élite, alors Dame Justice agira autrement à votre égard, a déclaré le député Chaffetz.
La Minute Éco, John Linden.
Le gouvernement de Brazzaville cherche des repreneurs pour 3 licences d'exploitation pétrolière en mer que le groupe français Total souhaite abandonner, a déclaré son porte-parole Thierry Mungala lors d'une conférence de presse à Brazzaville. Le groupe français continuera d'exploiter les 3 licences jusqu'à ce que Brazzaville trouve un repreneur pour les 39% d'actions que le groupe français détient dans ses permis. BGFI Cameroun, filiale du groupe bancaire gabonais, apporte 24 milliards de francs CFA pour un complexe olympique à Douala. Ce prêt représente la contrepartie camerounaise à la construction du complexe sportif de Japoma à l'est de Douala, dont le stade de 50 000 places accueillera les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Et puis au Gabon, après avoir été détruit par les autorités en 2014 au cours d'une opération surprise et musclée menée par les agents du génie militaire, les panneaux publicitaires refont surface à Libreville. Ce retour suscite des questionnements au sein de l'opinion, ceci à l'approche de l'élection présidentielle.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.